Chapitre 41. Les vacances d'hiver sont terminées. L'appartement est calme. C'est un silence différent de celui qui règne quand les enfants sont encore couchés, qu'on anticipe le mouvement, les portes des chambres qui s'ouvrent, les petits déjeuners et les douches qui suivront. Là, c'est la vraie paix, celle d'une maison vide. Les manteaux ne sont plus accrochés dans l'entrée, les sacs ne traînent plus sur les chaises, les lits sont désertés, les tapis de douche humides, les enfants à l'école, Rohan au boulot, et une journée rien que pour elle l'attend. Kate devrait travailler, mais elle n'arrive pas à se concentrer. La veille, il y a eu une nouvelle agression sexuelle. Les médias ne parlent que de ça, et la police a diffusé des consignes de sécurité pour les femmes résidant dans le quartier. Cette fois, la victime avait une cinquantaine d'années. Elle rentrait d'un déjeuner avec des amis, et la nuit tombait quand elle a été entraînée dans une ruelle derrière une agence immobilière de la rue principale et a subi une agression sexuelle grave. Au crépuscule. L'agresseur était décrit comme un homme blanc, mince, qui avait entre 20 et 40 ans, et le visage recouvert par une cagoule légère comme celle que portent les motards sous leur casque. Il n'a pas prononcé un mot pendant l'attaque, et la victime a dû être hospitalisée. Crépuscule. Ce mot, dans l'article, l'avait marqué. Un terme si spécifique pour une partie de la journée si éphémère. Immédiatement, elle avait repensé au crépuscule de la veille, alors qu'elle explorait le terrain en construction avec sa lampe à la recherche de son fils introuvable. Fils qui était rentré à la maison quelques minutes plus tard, affamé, prétendant être allé voir un film de Dwayne Johnson tout seul. Crépuscule. Elle marche jusqu'à la chambre de Josh et pose la main sur la poignée. Elle ouvre la porte. Le lit est fait, son pyjama est plié sur son oreiller. Elle écarte les rideaux et laisse pénétrer la faible lumière du jour. Elle allume le plafonnier. On dirait que personne ne vit dans cette pièce. Josh ne laisse traîner aucune affaire. Georgia, elle, a sur sa table de chevet trois tasses à moitié remplies d'eau croupie, des bijoux, un ou deux livres, des chargeurs emmêlés, une chaussette, un vieux mouchoir, un baume à lèvres sans couvercle et un tas de pièces. Mais Josh n'a rien. À part un dessous de verre.
Crépuscule.
Elle s'agenouille et regarde sous le lit. Son ordinateur est là, branché au mur, le câble enroulé avec soin. Elle l'attrape et le pose sur ses genoux. Elle ne veut pas s'asseoir sur le lit, car elle doute de pouvoir tendre la couverture aussi bien que Josh. Il se rendrait compte qu'elle a violé son intimité. Elle ouvre le portable, l'allume, et sait bien qu'il n'utilise plus le mot de passe qu'il employait pour tout quand il était petit, le mot de passe qu'elle avait le droit de connaître, Donkey 123, et qu'elle va devoir trouver un autre moyen d'accéder au contenu de son ordinateur. Cela étant, elle est devenue assez douée pour deviner les mots de passe quand elle pensait que Rohan la trompait. Elle était même parvenue à s'infiltrer dans son ordinateur professionnel. Elle attend que l'écran soit prêt, puis tape Donkey 123. Elle se prépare à voir s'afficher un message d'erreur, mais la session s'ouvre. Elle est entrée. Elle cligne des yeux, n'en revenant pas, et se sent immédiatement rassurée. S'il avait quoi que ce soit à cacher là-dedans, il aurait forcément utilisé un mot de passe que sa mère ne connaissait pas. Elle regarde les différentes fenêtres ouvertes. Un tableur de maths, iTunes, une dissertation sur la ferme des animaux, et le navigateur Internet avec 10 onglets ouverts, presque tous liés à ses devoirs. Le dernier est celui du programme du cinéma du quartier. Elle inspire profondément.
« Voilà, » pense-t-elle. Il disait la vérité. Il était bien au cinéma.
Elle vérifie les horaires. Une famille sur le ring, 15h20. La séance se serait donc terminée bien après le crépuscule. Elle consulte l'historique. Elle avait fait la même chose l'an passé avec l'ordinateur de sa fille et avait découvert avec stupéfaction que Georgia, à 14 ans, regardait des vidéos porno nombreuses et éclectiques. La dernière recherche est « Cinéma, Finchley Road, film, horaire ». Elle note distraitement que son fils ne s'est pas connecté à Internet depuis la veille au matin. La recherche précédente est « Arrestation, Owen Peak ». Et avant, « Owen Peak ». Owen Peak, Saphir Maddox. Disparition, Saphir Maddox. Saphir Maddox, ado, disparition. Ce qui est tout à fait compréhensible. Kate elle-même est obsédée par Saphir Maddox depuis qu'elle a appris sa disparition. d'autant plus que c'était une ancienne patiente de Rohan et que l'homme qui l'a enlevée vit en face de chez eux. Il est bien naturel que son fils s'intéresse particulièrement à cette affaire. Son propre historique de navigation ne serait pas bien différent. Elle referme l'ordinateur et le repose délicatement sous le lit. Elle s'approche ensuite du placard. Ses vêtements sont soigneusement empilés. Elle aperçoit aussi les manuels d'école dont il n'avait pas besoin en cours aujourd'hui, des stylos et du papier pour faire ses devoirs. Son bureau, une table accrochée au mur qui se rabat quand il ne l'utilise pas, n'est pas ouvert. Kate ne comprend pas pourquoi chaque jour Josh range ses affaires dans le placard et replie son bureau. Il est bien le fils de Rohan de ce côté-là. En bas de l'armoire se trouve son panier à linge sale. Tant qu'elle y est, autant faire une machine. Elle sort le panier du placard et voit, caché dans le fond, un sac en plastique. Ce n'est certainement pas un objet qu'elle s'attendait à découvrir. Alors elle l'attrape, l'ouvre et regarde ce qu'il contient. Des vêtements de sport sale. Une odeur de moisi et de quelque chose de plus violent l'assaille. Pas vraiment de la sueur, un parfum plus animal. Elle en extrait un legging en lycra, celui de son mari. Puis un t-shirt à manches longues avec des bandes réfléchissantes orange en haut des bras, qui appartient aussi à Rohan. Ensuite viennent des chaussettes et une paire de gants adhérents. Et enfin, un morceau de jersey noir qu'elle ne parvient pas à identifier tout de suite. Elle le lève devant son visage, le tourne et le retourne, et passe la main dans un trou au milieu du tissu. Soudain, elle comprend. C'est une cagoule.